de la Motte Langon, Souvenir d'un fantôme, La Dame de nuit. Le jeune comte de Beaurand avait soupé dans Toulouse, sa patrie, en partie de plaisir avec ses amis. Le vin échauffa la tête, et dans un transport frénétique, il s'écria « Oh, que n'avons-nous une femme ici ? Fût-elle l'épouse de Satan en personne, j'en passerai ma fantaisie. » Minuit sonna, c'était l'heure où chacun rentrait chez soi. Le comte de Beaurand et deux de ses amis, qui logeaient dans le même quartier, la rue des Nobles, quittèrent la compagnie qui restait encore attablée dans la rue Gourmande et prirent le chemin de leur quartier. Et comme ils traversaient la Pierre, marché principal de Toulouse, ils virent devant eux une femme que précédait une manière de page qui portait à la main un falot. Le comte de Beaurand, laissant en arrière ses deux camarades, elle était jolie, brune, blanche et gracieuse. Son corps était charmant. Une robe de soie jaune, un mantelet de taffetas gris brodé d'un point d'argentan, un manchon de martre formaient sa parure. Monsieur de Beaurand, s'approchant d'elle, s'écria sur le danger que courait une jolie femme par ailleurs dans les rues de Toulouse. Elle répondit en minaudant. La conversation s'engagea. L'étrangère, après plusieurs simagrées, finit par accepter la main du comte qui, disait-il, voulut la ramener chez elle. Ils traversèrent une grande partie de la ville et arrivèrent par plusieurs rues détournées jusqu'à la rue de Lascaux, alors presque entièrement inhabitée, et où l'on trouvait les champs labourés. Là s'élevait une petite maison qui paraissait nouvellement bâtie. Le page ouvrit la porte et à l'instant où la dame et le comte allaient la franchir, les deux amis de celui-ci, pressant le pas, arrivèrent. Le comte de Beaurand demanda à la belle étrangère la permission de lui présenter ses camarades. Elle les accueillit gracieusement et tous ensemble pénétrèrent dans une salle basse assez proprement décorée de tapisseries et d'un meuble complet dans le damas jaune. Il commençait à faire froid. Le page alluma un grand feu. La dame, après avoir quelque temps soutenu la conversation, passa dans sa chambre, qui était voisine, afin, dit-elle, de quitter sa parure de ville. Le comte, rempli d'audace, s'y rendit peu après, en ayant soin de fermer la porte. Cette pièce, encore, était toute jaune. M. de Beaurand fit la remarque et s'en étonna. Mais s'étant aperçu que la maîtresse du lieu était brune, il comprit le choix de la couleur générale. La dame se récria d'abord sur son insolence. Il commença par demander pardon, et puis osa manquer de respect à l'inconnu. La résistance fut assez longue, mais comme il était pétulant et prodigieusement fort, il triompha d'une femme faible et délicate. Après de longs moments pendant lesquels il avait cru être heureux, il se mit à solliciter pour ses amis les faveurs qu'il avait obtenues. Ici, nouveau combat, nouvelle résistance de la part de la dame, et de la sienne, autre victoire. Il obtint le consentement qu'il désirait, s'en alla au salon les instruire de leur bonne fortune, et successivement, chacun s'en revint visiter cette dame qui paraissait de si bonne volonté. On finit par la ramener dans le salon et on parla de souper. « Je le veux bien, dit-elle, et quoi vous m'ayez prise au dépourvu, je me charge de vous faire une chair telle que jamais vous n'en avez eu l'idée. Mais, poursuivit-elle, avant de vous mettre à table, à qui croyez-vous avoir eu affaire ?»« À une femme charmante, s'écrièrent-ils tous trois. Un ange de douceur, de bonté, de complaisance. Vous vous trompez, répondit-elle froidement. C'est avec la charogne d'une voleuse pendue il y a 3 semaines. Oh, s'écrièrent-ils ensemble, quelle horrible plaisanterie! Mais c'est la vérité tout entière, reprit-elle encore avec peu de plus de calme. Et vous en convainc que ce sera facile. En disant ces mots, elle troussa sa cotte par-dessus sa tête, en laissant son corps nu. C'était un épouvantable mélange de chair affreusement dévorée par les vers et les oiseaux de proie, et dont l'odeur infecte se répandait alentour. Au même instant, la maison disparut. Les trois gentilshommes, frappés de mort, furent rencontrés 1 heure et demie après par la patrouille du guet qui les trouva couchés dans un cloaque où deux avaient déjà perdu la vie. Le comte de Morand, qui respirait encore, put raconter ce qui s'était passé et, avant le lever de l'aube, lui-même avait cessé de vivre.